Bienvenue dans Starting Block, le magazine de l'émergence musicale sur les Radio Campus de France. Cette semaine, Radio Campus Paris vous emmène au Sonic Protest, festival de musique libre, forte et bordélique. Du 24 juin au 11 juillet a lieu la 17e édition de ce festival itinérant de l'Île-de-France, qui mêle concerts, expositions, ateliers, tables rondes et happenings radiophoniques. Rencontre avec ses deux fondateurs et programmateurs, Arnaud Rivière et Franck Dekengo.
J'ai le plaisir de recevoir Arnaud Rivière et Franck Dekengo, qui sont les programmateurs du Sonic Protest. On est dans le troisième jour de festival. C'est un festival qui a lieu du 24 juin au 11 juillet. Et donc c'était quand la dernière fois que vous avez fait une émission de radio ensemble, tous les deux?
Moi, je dirais 2018. Quelque chose.
Ah bon? Si 2000, loin, si loin que ça. On a rien fait.
Je crois que c'était
en...
dans les années 2010, quelque chose.
Avant le crash, on n'a rien fait.
Je suis pas sûr qu'on avait eu la chance de faire une émission à deux. On avait fait des émissions séparées. Ça peut arriver. Ça, c'est... Quand on dira une connerie, ce jingle apparaîtra. Et donc, apparemment, on a dit une connerie.
C'était une censure. Le prochain rendez-vous, c'est la visite de l'exposition qui s'ouvre aux Instants Chavirés dans la brasserie Bouchoul.
Ouais.
Tout à fait, on est content d'avoir commencé un festival dont on risque de voir la fin, ça arrive pas tout le temps.
Donc ça arrive pas depuis
cette
un
habitude.
An.
Ouais, tout à fait, on avait perdu cette habitude. Jusqu'alors on avait plutôt réussi, puis l'année dernière je sais pas ce qui s'est passé, on s'est pris les pieds dans le tapis. Et puis on renoue donc du coup avec le format festival et on renoue également avec le format exposition qui est un petit bonus que Sonic Protest s'offre de temps en temps et ça fait un petit bout de temps qu'on n'était pas passé par cette case là. On a demandé à nos amis des Instants Chavirés de nous prêter l'espace de l'ancienne brasserie Bouchoul qui est un chouette endroit et dans lequel du coup on a programmé une petite exposition d'art sonore en action. Et donc avec trois propositions plastiques et puis cette exposition se joue sur deux volets, un volet plutôt installation et un volet performance, le tout faisant office d'exposition. Du côté des œuvres plastiques, on trouve une installation de Lucien Gaudion, on trouve une installation collective du collectif Pinode, qui est un collectif d'art radio qu'on connaît, avec lequel on collabore beaucoup. Et puis il y aura aussi une installation qui a été fabriquée par les étudiants de Paris 8 qui rencontrent ceux de la IR, sous la direction, en tout cas les conseils de Marc Baron, un artiste sonore qu'on retrouvera plus tard dans le festival. Ces étudiants se sont retrouvés en janvier pour un premier atelier sur l'empreinte sonore du lieu dans lequel ils vont montrer des choses. Et puis depuis une semaine, là, sont en train de peaufiner la forme installative de leur proposition. Et puis, parallèlement à ces formes qu'on pourra visiter donc du coup du 27 juin au 11 juillet, qu'on pourra venir voir dans le hall de l'ancienne brasserie Bouchoul, sur ce week-end d'ouverture en tout cas, on proposera des performances qui parlent du matériau son par Laurent Bigot, qui sera lui dans la salle de concert des Instants Chavirés pour des séances de son spectacle qui s'appelle D'un air instable, qui est un théâtre d'objets sonores qui se gonfle et se dégonfle et à partir de là on entend les objets différemment. Et puis les interventions de cet artiste anglais qui s'appelle Tim Shaw, qui le dimanche 27 juin nous fera écouter le quartier du Bas Montreuil de manière différente puisqu'il organisera des déambulations dans les rues de Montreuil pour un groupe de 12 à 15 personnes avec des casques sans fil et lui balade un matériel électroacoustique qui nous fait entendre ce qu'on n'entend pas à l'oreille nue. Et puis le lundi 28 il prendra la totalité de l'endroit d'expo comme un terrain de jeu qu'il aura piraté au cours de la journée. Il nous fera sa version à lui de l'ancienne brasserie Bouchoul.
Très bien, merci pour cette description. Donc le Sonic Protest, c'est un festival dédié au son, au bruit, à la musique, sous toutes ses formes. Et c'est vrai que le pendant de l'exposition, il donne un aperçu de ce qu'on ne voit pas forcément sur scène. Sur scène, on voit la musique en action, et là, on voit plus de dispositifs. Ou en tout cas, on pourra le vivre un peu plus longuement qu'en étant spectateur pour des concerts qui concernent le reste de la programmation.
Ça complète vraiment l'offre qui est en concert. En concert, on est sur de la perf, c'est de la musique a priori. On va dire que c'est a priori de la musique ce qui se passe à Sonic Protest. Et puis effectivement, pendant l'exposition, on aborde plus trop la musique, mais le son en tant que matériau. Ça change un peu le point de vue. Et puis ça permet aussi de s'adresser à d'autres gens, à d'autres temporalités. Il y a une part du travail qui est aussi d'inviter des scolaires, d'inviter des gens comme ça qui eux en général viennent peu au concert la nuit, ce qui est bien, ça nous laisse tranquille, mais en journée on est content de pouvoir les accueillir et parler avec eux de ce qui est justement montré dans l'expo.
On peut montrer à nos enfants ce qu'on fait comme métier, quoi.
Très bien. Alors on va parler de tous ces sujets après une première écoute. Donc on va commencer par
Team Show Stereo.
De retour avec Franck de Kengo et Arnaud Rivière. Alors, les concerts ont déjà commencé pour cette édition du Sonic Protest.
Tout à fait, et c'est réjouissant.
C'était comment ?
C'était super, évidemment.
Surtout ce soir.
Ouais, en tout cas, la musique, ça plaît vachement à ceux qui aiment ça, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Hein. Ceux qui aiment ça vont trouver ça chouette.
Ouais, ceux qui aiment ça ne seront pas déçus.
Mais après, c'est un peu banal, mais vous avez quand même vous tendez l'oreille à la fin des concerts pour avoir des retours, surtout des...
On t'en la joue.
Pour les bisous. Pour recevoir plein de bisous. Écoute, oui, bah, peut-être que c'est l'effet de manque aussi, mais je trouve que là il y a un enthousiasme évident. Déjà, je crois que ça réjouit pas mal de gens que ça puisse avoir lieu déjà en tant que tel. Et puis il se trouve que jusqu'alors, les propositions, on est qu'au tout début, hein, donc on va pas crier victoire ni champagne tout de suite. Mais en tout cas, les propositions qu'on a pu voir et entendre sont assez réjouissantes. Et les gens qui étaient là pour le partager savaient ce qu'ils venaient peut-être voir et entendre. Et jusqu'alors, on a vu plutôt beaucoup de sourires.
Ouais. Alors, est-ce que Franck j'aimerais que tu t'exprimes aussi. Est-ce que tu retrouves des accoutumés ou est-ce que tu peux être attentif aux réactions du public aussi
Bah là, on voit de toute façon qu'il y a effectivement des gens qui nous suivent maintenant régulièrement. Hein. C'était une discussion qu'on avait quand on était au théâtre de Vanves, justement avec les gens de Vanves, qui sont toujours surpris de voir tout le public qu'on peut ramener à nos concerts. Donc il y a effectivement des gens maintenant qui vont systématiquement au Sonic Protest, même s'ils connaissent rien du tout, ou trois noms dans la programmation sur les... Combien il y a d'artistes cette année ?
Entre 40 et 50.
Voilà. Et donc voilà, après il y a des bons mélanges, parce que les endroits, comme on est en itinérance, on est dans des endroits différents, qui ont des publics aussi à eux, donc qui viennent aussi, qui commencent aussi à venir dans nos concerts, donc ça fait des mélanges comme ça. La programmation mélange toujours aussi les générations, donc on a aussi dans le public aussi des mélanges de générations, c'est assez riche. Et puis effectivement, les gens étaient en manque de concerts, ils savent qu'au Sonic Protest c'est une bonne ambiance, parce que quand on parlait de l'équipe, la grande famille Sonic Protest élargie avec toute l'équipe bénévole, tous les gens qui bossent avec nous sur le festival, on sait qu'il y a une bonne cohésion, il y a une bonne... on sait qu'à Sonic Protest, on est bien reçus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qui se passe sur scène, mais il y a le tout aussi.
Est-ce que c'est lié au fait que certains sont déjà aussi musiciens par ailleurs et participent
Ouais, mais je pense qu'on a dépassé le truc d'avoir que des musiciens dans la salle. C'est vrai que pendant au début, hein, je pense quand on a commencé, on était quand même dans ce truc-là. C'est les musiciens qui viennent voir d'autres musiciens, etc. Il y a une espèce de réseau comme ça, très 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 pointu. Mais là, je pense qu'on a un peu éclaté le truc. Après,
ça se saurait s'il y avait autant de musiciens à Paris.
Ouais. Non, mais ça, c'est des musiciens en devenir aussi, peut-être.
Peut-être.
Et d'ailleurs, à propos des réactions du public, comme on est face à des musiques qui peuvent être instables ou en tout cas non calibrées, est-ce que vous avez des petites tensions, même les balances faites sur le niveau sonore, sur ce qui se passe sur scène, rester un peu en régie parfois?
Après, quand on a fait la famille Pinas, donc Richard et Duncan, au théâtre de Vanves, c'était quand déjà? Ça me paraît tellement loin. C'était jeudi, c'était l'ouverture du festival. Il y a une histoire de volume sonore qui est effectivement pas habituelle dans ce type de théâtre, donc qui peut surprendre. Nous, c'est une des facettes de ce qu'on présente. Hein. On présente des musiques extrêmes, mais pas que. Mais donc là, effectivement, ça peut un petit peu. Mais le public, c'était ce qu'il était venu entendre, du son à la limite de. Du volume supportable, c'est ce qu'on va aussi vivre avec la performance de Stéphane O'Malley.
Madre de la, vuela de su madre.
Brut de la musique, bon, forcément c'est maintenant au centre du festival, dans l'esprit, et vous accordez deux jours de table ronde, si j'ai bien suivi.
Ça fait cinq ans ouais, qu'on fait ça. Ouais.
Et comment vous êtes arrivé à vous-même mener des ateliers dans ce sens ?
Après, l'idée on a commencé à organiser des concerts en 2003 avec Sonic Protest, on a développé assez vite d'autres choses, donc Arnaud parlait tout à l'heure des expositions, qui sont quand même des choses, expositions d'art sonore qui reviennent régulièrement. Et l'idée aussi de faire ce qu'on appelle vulgairement l'action culturelle, mais d'aller travailler avec d'autres publics, tu vois, de faire se rencontrer des artistes et des publics qui sont plutôt éloignés de la culture. Alors au départ on a commencé soft, parce qu'on était avec des lycéens, donc les lycéens quand même ils ont accès à la culture, mais pas tous et pas forcément cette ouverture là sur l'expérimentation. Donc il y a un partenariat avec le lycée autogéré de Paris et on a trouvé ça très enthousiasmant et on s'est dit qu'il fallait qu'on développe ces actions, ces ateliers, ces rencontres. Et donc après il y a eu cette rencontre avec Alan Courtis et les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony en 2013 et qui a été aussi enthousiasmante. L'idée c'était de faire rencontrer un musicien argentin qui est aussi bien connu dans la scène expérimentale, improvisée, mais qui a une pratique comme ça d'atelier de musique, de workshop dans le monde entier avec des personnes en situation de handicap. Donc lui il avait monté ce groupe culte Reynolds, qui est un peu la pièce fondamentale de départ, de démarrage de Sonic Protest. Et on savait qu'il venait régulièrement en Europe animer les ateliers et faire des concerts, mais il n'avait jamais fait ça en France. Donc on a essayé de trouver des partenaires pour pouvoir faire ce.
Et comment c'est devenu une vocation ?
Bah après, toutes les choses se sont enchaînées petit à petit, en développant ce projet. Parce que cette rencontre, Alan Courtis et les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, ça a donné un double projet, une émission de radio, Radio Tisto, sur Radio Libertaire, et maintenant plus sur p-note.org. Et un groupe, les Harry's. Et du coup, on a voulu développer ce projet. On a été aidé. Au départ, c'était du bricolage, comme toujours. Et puis après, on a reçu le soutien d'un dispositif culturel à l'hôpital. Et ça nous a permis de développer ce projet, de se rendre compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient aussi en train de développer des projets dans leur coin. un peu comme dans la musique, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui font de la musique. Nous, on est tout le temps en train de chercher des artistes aux quatre coins du monde, et en fait, on essaie de les mettre ensemble. C'est des histoires de réseau, quoi. Et en voyant qu'il y avait tout ce foisonnement, bah voilà, ça, c'est venu assez naturellement de contacter les gens, d'échanger avec eux, de se dire tiens, ça doit intéresser d'autres gens, et de créer comme ça des rencontres en mélangeant des gens qui viennent des professionnels du médico-social, les usagers, les jeunes. Des institutions, c'est très important, toujours donner la parole à tout le monde. Et les artistes, le public, enfin voilà, créer cette...
Et là, avec ce, justement cette rencontre, il était dans l'Ouest une fois, c'est, la manière dont tu l'as présenté, ça semble évident qu'on puisse allier plusieurs manières de faire de la musique. Enfin, je sais pas comment tu pourrais décrire ça. Ça semble évident que la musique soit... ni porte ni fenêtre, quoi.
Oh bah là oui, je crois que ça doit être la norme. En fait, cette année, on questionne toujours un peu, il y a des thématiques, hein, sur les deux journées de table ronde, et cette année on avait vraiment envie de se poser les questions, de savoir ce que c'était que cette fameuse norme. Et nous, on est plus du côté de l'équilibre, en fait, trouver un équilibre. Ça veut pas dire qu'on est normal, en fait, au sens de ce qu'on appelle la norme, mais trouver un équilibre, voilà. Donc on l'a bien vu avec la crise qu'on est en train de, on espère derrière nous, mais qu'on est en train de à laquelle on survit en ce moment, ça a aggravé énormément les situations complexes des personnes en difficulté. Puisque voilà, il y avait des prises de décision qui doivent s'adapter à tout le monde doit faire comme ci, comme ça, mais en fait, tout le monde a une singularité, on peut pas, on n'est pas tous égaux face à ce genre de dispositif. Donc on s'est bien rendu compte que c'était une crise particulièrement difficile pour les personnes vulnérables. Et donc, voilà, c'est-à-dire que là, on fait un focus avec les rencontres sur les projets qui sont développés avec et par des personnes en situation de handicap. Mais du coup, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de faire un focus, que ce soit normal, en fait, dans une programmation de festival. On a toujours, de façon, programmé depuis un bout de temps des artistes dans la programmation, sans forcément qu'ils soient sur les deux journées des rencontres.
J'ai l'impression que, finalement, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais là, la musique est un passeport à ne plus voir ces différenciations d'usage.
La création, oui,
de manière de faire. Et que vous le rappelez, quoi.
Bah, y a quand même eu dans Sonic Protest au départ, même si on ne l'avait pas formulé comme tel, c'est peut-être a posteriori qu'on est capable de le penser un peu comme ça, mais il y a toujours eu l'envie de partager le trésor, que ces choses-là précieuses qui nous étaient précieuses, on trouvait qu'elles étaient peut-être réservées à trop peu de gens. Et puis avec Sonic Protest, il y a quand même cette idée de se dire que si nous on est tombé dessus et que ça nous a fait plaisir, il y a probablement d'autres gens qui ne le savaient pas encore, que ça pourrait leur changer la vie aussi, ou au moins les faire sourire de temps en temps.
Je crois que c'était vraiment le postulat de départ. Parce que quand on s'est dit qu'on allait monter Sonic Protest, c'était bien pour dire mais c'est pas possible, il y a les Reynolds, ce phénomène,
voilà,
il faut que les gens connaissent ça. Donc il faut monter un événement plus que ce qu'on faisait déjà ensemble, en binôme, organiser des soirées de concert, quoi, classique.
Ça, si on veut. Et là, il fallait
créer un événement pour dire, donc on a appelé ça festival, ça nous a fait marrer, parce qu'on ne savait pas que ça allait durer autant.
On ne pensait pas qu'on y serait encore quelques années plus tard. Ouais.
Mais du coup, voilà, il y a ce truc-là, quoi.
De le partager autrement, et puis du coup, effectivement, via la pratique, quand les ateliers ont commencé à se mettre en place, d'abord avec des lycéens, et puis très rapidement avec les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, c'était que ces musiques-là, elles s'écoutent en tant qu'auditeurs-spectateurs dans le public quand on vient à un concert, mais aussi c'est un chouette endroit où on peut partager, on peut mettre ensemble les mains dans le cambouis, vu que ce sont des musiques qui justement sont pas ni normales ni normées, on peut la pratique tout le monde part à armes égales, le tout c'est d'être un être présent, et puis après il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de belles notes, il n'y a pas de moches notes, on s'en fout, il n'y a pas de beaux sons, il n'y a pas de moches sons, et un peu par-delà ces notions-là. Et puis il y a juste aussi une importance du moment présent, de comment ils se partagent. Et puis ce qui est super réjouissant de voir, c'est qu'effectivement, après quasi 10 ans de pratique avec les ateliers. Certains membres des Harry's, par exemple, sur cet atelier précis, sont là depuis le début, et on voit à quel point, au départ, c'était pas évident de monter sur scène, d'assumer ce rôle d'être musicien, regardé, écouté par plein d'autres, ce qui, pour des personnes effectivement en situation de handicap, sont pas hyper habituées à être entendues, écoutées, respectées, voilà. Et donc, s'il y avait ces enjeux-là, puis maintenant, on voit comment, presque 10 ans plus tard, la scène, c'est un endroit qui est confortable et agréable, et un endroit où ces jeunes sont des artistes, point. Voilà, il n'y a plus d'autres questions. On ne se demande pas est-ce qu'ils ont une carte qui parle de leur handicap ou pas.
Pas la question se pose plus. Quoi. Pas besoin de prérequis pour les spectateurs pour apprécier tous les concerts.
Tout à fait.
Du Sonic ensemble.
Il peut y avoir un plaisir après à se documenter, à creuser, à lire et à aller vers un côté plus savant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on redéfend, évidemment, c'est que c'est d'abord avec les oreilles que la musique, elle se perçoit. Et puis, évidemment, ça fait des choses dans le cerveau, mais on n'est peut-être pas toujours capable de mettre un nom dessus. Et en tout cas, on n'est pas obligé. Et puis, à la fin, on n'est surtout pas obligé de se dire... Enfin, moi, un des pires trucs que je pourrais entendre à la fin d'un concert, c'est « Oh, bah, j'ai pas compris ». Comme s'il y avait un truc à comprendre, quoi. Parce que des fois, sur des musiques, sur des formes un peu étonnantes, quand c'est pas ce qui se passe à la radio en 4/4, on peut se dire, bah zut, qu'est-ce qu'il essaye de dire, l'artiste, qui m'aurait échappé pour que ça ait passionné les autres dans la foule et pas moi. Mais en tout cas, nous, on a plutôt envie de montrer des gens où il n'y a pas besoin de lire un bouquin avant.
C'est la fin de ce starting block dédié au festival Sonic Protest. Vous pouvez retrouver une version longue de cette interview dans la carte blanche de Radio Campus Paris. Merci à Eglantine et Marie d'avoir réalisé cette émission, et merci à Arnaud et Franck du Sonic Protest. Bel été et à bientôt !